Pom 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 pom
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Schaff. Là-bas, si j'y suis, la vie à en mourir.
Flight number 2, arriving from...
Faisons de la butte, le 26 septembre 1943. Parents chéris, je ne sais plus que penser. Je sais que je vais te fusiller. Je suis courageux, mais je n'aurais pas cru que ma vie finirait aussi brutalement. Qu'allez-vous devenir? Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Jamais. Je n'aurais cru qu'une faute si peu grave était passible de la peine de mort. Ma vie aurait été bien courte. Elle a été heureuse. Elle aurait pu devenir merveilleuse après cette guerre. Mais non, encore non. Je ne peux croire que je vais mourir. Mes chéris, je vous serre dans mes bras. Je vous embrasse de tout mon cœur. Jean Grappin.
Métro, avenue, impasse, chaque jour leurs noms sont mille fois sur les lèvres du chauffeur de taxi, de l'écolier, du sans-papier qui se balade avec un papier où il est écrit Guy Moquet, avenue Gabriel Péri, avenue d'Estienne d'Orve, un sans-papier avec son nom difficile à prononcer, comme ceux de l'affiche rouge 23 qui criait la France en s'abattant. Mais que disent, que nous disent ces noms aujourd'hui, sous le tas de poussière, les monceaux de poussière de l'histoire et de la mémoire, sous toutes les manipulations et instrumentalisations de l'histoire et de la mémoire, sous toutes les instrumentalisations, manipulations de la politique et du pouvoir dont ils ont été l'objet, la création de nomenclaturas écrasantes, la création de pouvoir en leur nom, sur leur nom, par ceux qui s'approprient le monopole des autres. Un livre formidable qui s'intitule « La vie à en mourir, lettres de fusillés » de 1941-1944. Des lettres choisies et présentées par Guy Crivo-Pisco et préfacées par François Marcot nous donnent à redécouvrir l'élan, la fraîcheur, la force, la beauté absolue de ces hommes et de ces femmes aussi, français ou étrangers, qui avaient 20 ans et qui ont donné leur vie pour la France, contre le nazisme, contre le fascisme, contre l'occupation, et qui ont écrit, avant d'être fusillés, des lettres. Les soldats viennent me chercher, je hâte le pas, mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Ou bien l'autre qui dit « Ne baisse pas la tête parce que ton papa est fusillé ». Ou bien, pour penser à moi, chanter. Un autre, il pleut sur la route. Ma chère femme, tu garderas mes lunettes en souvenir. Ces gens s'appelaient Tony Bloncourt, René Bonpin, Honoré d'Estienne d'Orve, Léon Jost, Arthur Loucheux, Guy Moquet, Gabriel Péri. Et en lisant ces mots, je ne prononce pas celui qui est difficile à prononcer, Henri Bastzok. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui ont donné leur vie de cette façon. Fusillés, guillotinés pendant l'occupation, victimes des Allemands et de Vichy. Dans l'attente de leur mort, ils adressent à leur famille, à l'être aimé, une dernière lettre. Et c'est avec ces lettres qu'on va passer cette heure. avec aussi un historien, Denis Péchanski, qui est un historien de cette, spécialisé dans cette période, et puis aussi Odette qui a été la fiancée, on va dire, d'un homme dont on répète le nom sans savoir toujours qui il est, sur les lèvres du chauffeur de taxi à l'instant où je parle, dans la bouche de l'écolier, ou sur le papier du sans-papier, le nom de Guy Moquet. C'est jusqu'à 18h, c'est avec Thierry Scharf et c'est la Basse Vision.
L'actualité politique. À Paris, M. Albert Clément, rédacteur en chef du Cri du Peuple, est assassiné par des terroristes.
À Vichy, M. Paul Marion, secrétaire d'État à l'information, dénonce les crimes anglais et russes. Bombardement de populations civiles, assassinat terroriste.
De telles mœurs ne relèvent plus des lois de la guerre, mais de la pratique de l'assassinat collectif et privé.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques, relevant non d'une doctrine politique, mais de l'aventurisme, dont ont toujours fait preuve, malgré leurs protestations, les dirigeants du Parti communiste, auxquels on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà, dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûla le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait. Sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger. Il le savait. Et le jour se leva pour lui.
Besançon, prison de la Butte, le 26 septembre 1943. Chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine, mais je vous ai vu si plein de courage que je n'en doute pas. Vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Vous ne pouvez savoir ce que moralement j'ai souffert dans ma cellule, ce que j'ai souffert de ne plus vous voir, de ne plus sentir sur moi votre tendre sollicitude que de loin. Pendant ces 87 jours de cellule, votre amour m'a manqué, plus que vos colis. Et, souvent, je vous ai demandé de me pardonner le mal que je vous ai fait. Tout le mal que je vous ai fait. Vous ne pouvez douter de ce que je vous aime aujourd'hui. Car avant, je vous aimais par routine plutôt. Mais maintenant, je comprends tout ce que vous avez fait pour moi. Je crois être arrivé à l'amour filial véritable. Au vrai amour filial. Peut-être, après la guerre, un camarade parlera-t-il de moi, de cet amour que je lui ai communiqué. J'espère qu'il ne faillira point à cette mission, désormais sacrée. Je salue aussi en tombant mes camarades du lycée. À ce propos, elle même doit un paquet de cigarettes. Jacquin, mon livre sur les hommes préhistoriques. Rendez le comte de Monte Cristo à Émergeon, trois chemins français, derrière la gare. Je lègue ma petite bibliothèque à Pierre, mes livres de classe à mon cher papa, mes collections à ma chère maman, mais qu'elle se méfie de l'âge préhistorique et du fourreau d'épée gaulois. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse et première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Papa, je t'en supplie. Prie. Songe que si je meurs, c'est pour mon bien. Quelle mort sera plus honorable pour moi? Je meurs volontairement pour ma patrie. Nous nous retrouverons, tous les quatre, bientôt au ciel. Qu'est-ce que 100 ans? Maman, rappelle-toi, et ces vengeurs auront de nouveaux défenseurs, qui, après leur mort, auront des successeurs. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. Un condamné à mort de 16 ans. Henri Ferté. Excusez les fautes d'orthographe, pas le temps de relire.
Cette mémoire la plus précieuse peut-être que nous ayons est très souvent écrasée, étouffée, éloignée sous des monuments de granit, de bronze pisseux et des musées. Tout ça est enfermé. Et comment faire revivre que ces choses-là, que ces actes-là, que ce qui a fait courir ces hommes et ces femmes très jeunes vers le terrorisme. Oui, c'était des terroristes, vous ne le répétez pas, mais c'était des terroristes. On fera entendre des archives du maréchal Pétain. Vous avez entendu Radio Paris, qui les voyait comme des terroristes. Quel lien y a-t-il aujourd'hui entre eux et nous, et notre jeunesse, et ceux qui ont l'âge des motivés aujourd'hui? Eh bien, ce livre, la vie à en mourir, ces lettres de fusillés, éditées chez Talandier, nous rapprochent d'eux, à travers leurs mots. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Et c'est ce petit crayon qui nous rapproche d'eux. Mais il faut aussi quand même des précisions. Alors, on a un ami historien, Denis Péchanski, qui est chercheur au CNRS et qui dirige la collection Archives contemporaines chez Talandier, précisément, qui nous apporte quelques lumières.
Curieusement, on s'imagine effectivement que les publications de lettres de fusillés, c'était comme une tradition qu'on devait respecter, effectivement. Or, sur les 120 lettres publiées dans ce recueil, je dirais entre 80 et 85% de ces lettres n'ont jamais été publiées. Jamais. On a eu quelques recueils après-guerre, essentiellement de l'initiative du Parti communiste, mais c'était des recueils de 15-20 lettres. On pourrait y revenir sur la façon dont ces lettres étaient rassemblées et éventuellement caviardées.
Alors, lettres de fusillés, dans quelles conditions ils ont été fusillés et pourquoi ?
On va dire qu'il y aura là deux grandes catégories de fusillés. Les otages et puis les fusillés après action. Alors, pourquoi ? Parce que un certain nombre de ces personnes ont été exécutées à la suite d'actions menées par la résistance et de représailles engagées par essentiellement les autorités allemandes et avec évidemment le soutien des autorités françaises dans la plupart du temps, et quelquefois directement par les autorités de Vichy. Donc en quelque sorte, après une action spectaculaire, en général des actions armées, on prenait des otages, souvent parmi les politiques, mais pas toujours, dans les camps d'internement ou bien dans les prisons, et on les exécutait pour des actes qu'ils n'avaient pas commis, bien entendu, mais en représailles d'actes commis par d'autres. Et puis une deuxième catégorie, c'est tout simplement ceux qui ont été fusillés à la suite d'actions de résistance qu'ils ont menées eux-mêmes. On pense à Manouchian, par exemple, et à quelques autres, mais c'est la personnalité la plus connue, ou à Destiendorf. Et voilà, les deux grandes catégories de fusillés. On en compte plusieurs milliers. On peut penser entre les exécutions sommaires, les fusillades, les exécutions d'otages, je pense que c'est entre 6 et 7 000.
L'ennemi a cru qu'il avait abattu la France. Or, le 31 octobre à 4 heures du soir, toute la France sera debout. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un enfant, ni chez nous, ni chez nos amis, ni chez nos ennemis, qui ne comprennent l'immense importance de ce formidable garde à vous. En se dressant tout à l'heure, la tête haute face à l'ennemi, la France va se voir telle qu'elle est, inébranlable dans sa fraternité. La France, tout entière rassemblée, dans les 5 minutes, va montrer que malgré les outrages, les tortures, les trahisons, en dépit des larmes versées sur ses armées défaites, sa jeunesse prisonnière et ses petits-enfants qui meurent, elle s'apprête pour la vengeance sous ses drapeaux déchirés. Le 31 octobre à 4 heures, la France rentre en ligne avec toute son âme, en attendant qu'elle marche avec toutes ses forces vers la victoire et vers la grandeur. La France avec nous.
Voyez, ça, c'est
des photos.
Ça, c'était une vue du camp de Châteaubriand.
Ah,
de la manifestation.
Photo noir et blanc, là.
Et alors, ouais. Ça, c'est les deux gars qui ont été arrêtés avec moi. Ça, c'est les trois gars qui ont été arrêtés avec moi, qui ont été gardés comme otages à Châteaubriand. Et puis ces deux-là, c'était des petits pépères de Drancy qu'on a retrouvés là-bas. C'est toute une équipe de Drancy, ça, voyez-vous.
Et vous avez des photos de Guy Moquet ?
Oui, bah, j'en ai pas mal.
Montrez-moi.
On est ça. Là, c'était sa baraque, là.
C'est lui, là, Guy Moquet, là.
Là ?
Ouais. Le jeune gaillard, là, en pantalon et un pull. Hein.
Il avait toujours ce pull vert gris.
C'est émouvant, là, ces photos, parce que on sent que chacun est arrivé là avec, évidemment, les habits qu'il avait.
C'était le début, tout à fait au début. Là c'est la belle-sœur à Maurice Thorez, celle-ci, Jeanne Dédé, vous voyez, celui-là, Arvois. Oui, c'est évadé, celui-là. C'est un jeune qui participe avec nous. Ses parents tenaient étaient viticulteurs à Reims. Et il était avec son frère, ils étaient arrêtés avec son frère. Et quand il s'est évadé, il a été enterré vivant. Ils lui ont tiré une balle et il était vivant, ils l'ont enterré. En 1942. Vous voyez, c'est tout un truc. Alors ça, c'était pour mes 20 ans, là, quand j'étais à Gaillon. Là.
En détention.
Oui. Alors ça, une camarade qui m'a fait un poème, vous voyez. 20 ans, roche du doux espoir. Pour toi, ils vont fleurir loin de tous, loin de tous les bonheurs que notre douce affection atténue un peu leur tristesse. Tes 20 ans, ma petite Odette, sont quand même prometteurs de grands espoirs. Toutes nous t'embrassons bien affectueusement.
Et puis il y a les signatures d'un tas d'amis.
Alors Evelyne, Margot, Jackie, Paulette, Janine, Dédé, Totote.
Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande à toi, en particulier petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman, bien des peines, je te salue pour la dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes. Toi, maman, c'est Serge, papa, en vous embrassant de tout mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Guy.
Odette, il vous reste qu'une photocopie de la lettre que vous avez reçue de Guy Moquet.
C'est celle-là. J'ai conservé cette lettre 60 ans et c'est pourtant écrite sur un papier plure. Je l'avais gardée précieusement, vous voyez, je ne l'avais communiquée à personne, presque à personne. Parce que cette lettre m'avait été remise par un gendarme. Un gendarme le jour où ils ont été fusillés. Alors,
vous la lisez.
Ma petite Odette, je vais mourir avec mes 26 camarades. Nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. 1000 grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Grosse bise à Marie et à toutes. Mon dernier salut à Roger, Rino, la famille et Jean Mercier.
C'est très court, hein?
C'est très court, c'est-à-dire que c'est vraiment le dernier petit mot qui a été écrit sur un papier plure, qui a été écrit sur les genoux, m'a dit le gendarme. Il me l'a remis en me demandant de ne pas en parler, d'en parler à personne. Effectivement, aussitôt après, il y a une perquisition dans la baraque pour essayer de trouver ce qui avait été passé, etc. Et j'ai conservé cette lettre 60 ans.
C'est un gendarme qui vous l'a passé?
C'est un gendarme qui l'a remis. C'était un jeune gendarme qui était en sympathie un peu avec les jeunes. Il n'y en avait pas beaucoup de gendarmes qui étaient sympathiques, mais enfin, celui-là, il était particulièrement. Et il a été en sympathie avec les jeunes, c'est pourquoi quand les Allemands sont arrivés, les gendarmes étaient autour d'eux, et c'est à ce moment-là que Guy, paraît-il, lui a donné le petit mot.
Vous, Odette, vous avez quel âge à cette époque?
Moi, j'avais 17 ans et demi à l'époque, oui. Et Guy avait pareil, 17 ans et demi. Nous avions le même âge. Et alors, on était séparés par une espèce de barrière en bois et un barbelé. On s'est retrouvés à cette barrière.
Vous vous connaissez dans le camp quand vous êtes arrêté?
Que dans le camp, on s'est connus que dans le camp.
Donc dans le camp où étaient arrêtés des résistants?
Voilà, où étaient arrêtés un groupe de politiques, les Jean-Pierre Timbaud, Paul Marc, etc. Et tous ceux qui avaient été arrêtés des 40, vous voyez.
Comment vous en venez à faire de la résistance à 17 ans et demi, vous? C'est jeune, ça.
C'est-à-dire que moi, je suis issue d'un milieu où on était communiste chez nous, vous voyez, tout jeune. J'ai milité dans des organisations des pionniers. Vous savez, vous voyez, quand vous comparez là, actuellement, là, bon, quand il y a eu l'histoire de Le Pen l'autre fois, vous avez vu comment les jeunes se sont mobilisés. Les jeunes, ils n'acceptent pas d'être bridés, d'être... là, bon, on ne pouvait pas accepter une occupation, vous voyez, ce n'était pas possible. Vous savez, on pense actuellement, on a l'air de dire, mais on n'était pas des héros, parce que les jeunes de maintenant, ils participent aussi d'une certaine manière. Peut-être moins avancés, parce que la situation n'est pas tout à fait pareille. Mais enfin, dès qu'il y a un mouvement, c'est surtout la jeunesse qu'on voit au premier rang.
Odette. Elle s'appelle Odette Milès, elle a 80 ans et vous avez compris, elle a été l'amie, la petite amie ou presque la petite amie de Guy Moquet. Et c'est très beau ce qu'elle nous dit là, ce rapprochement généreux qu'elle fait entre les jeunes manifestants contre Le Pen et son époque. Et ce qu'ils ont fait, eux, à 17 ans et demi, cette impatience de la jeunesse, ce refus radical jusqu'à donner sa vie s'il le faut. C'est, voilà ce qui s'entend, ce qui se donne à entendre et à revivre dans ces lettres de fusillés de 1941-1944, la vie à en mourir. Alors, eux, c'est 1941, c'est-à-dire le tout début. Guy Moquet était né né en 1924. Il était militant de la jeunesse communiste. Son père lui-même avait été arrêté. Et donc, il milite à fabriquer des tracts clandestins, coller des papillons contre l'occupation. Et ça, dès le début, dès 1940. Il est arrêté en 40 à Paris, à la gare de l'Est. Et puis, il se retrouvera à Châteaubriand. Il sera désigné comme otage le 22 octobre au matin et il sera fusillé le même jour à la carrière de la Sablière avec 26 autres otages, dont Odette Milès vient de nous dire, Jean-Pierre Timbaud. Voilà ce que sont ces mots, ces rues, ces métros, ces avenues, ces places, des hommes, de jeunes hommes qui ne supportaient pas simplement et qui ont résisté.
Un groupe de gendarmes qui ferme toutes les baraques, tous les issues, fenêtres, tout, etc., volets et tout. Ils nous enferment dans les baraques, vous voyez, ils ferment les portes et tout. Alors, en haut, il y avait une lucarne de notre baraque. Alors, cette camarade, on lui a fait la courte échelle, elle a grimpé. Et alors, c'est là qu'elle nous dit, il y a les Allemands qui se dirigent vers la baraque des otages. Et alors, elle dit, c'est curieux, elle dit, je les vois descendre. Elle dit, je vois Tintin. Alors, Tintin, c'était Timbaud, il était avec...
Jean-Pierre Timbaud, ouais.
Il avait toujours une... côte jaune, vous savez, jaune, un peu côte d'ouvrier, vous voyez, avec sa casquette et sa pipe. Elle dit, je vois Tintin qui descend. Et alors, quand il est passé devant notre baraque, automatiquement, il a fait un signe. La camarade nous disait, et puis je vois pas mal qui descendent. Mais elle pouvait pas nous dire combien, elle était vraiment très émue.
Vous saviez qu'il y avait Guy ?
Non, pas du tout, là. Ils en ont pris tant dans telle baraque, tant là, pour compléter, pour en faire 27. Et la dernière baraque où ils sont passés, c'est la baraque de Guy, vous voyez. Et alors, quand on a entendu qu'ils partaient, qu'ils chantaient la Marseillaise, on a accompagné, on est tous sortis. Je peux même dire que les femmes, elles sont sorties dans les premières, vous voyez. On a bousculé les gendarmes et on a chanté la Marseillaise. Enfin, on a chanté avec eux, mais une Marseillaise, vous savez... comment je vous dirais, on ne peut pas dire qu'on l'a chantée, on a hurlé la Marseillaise. Et... quand le camion s'est ébranlé, je ne savais pas qu'il y avait Guy Moquet, vous voyez. Je ne savais pas. Alors, il n'y a qu'après. C'était quelque chose d'épouvantable. Hein. Il y avait Guy, mais il y avait aussi tout ce groupe. C'était quelque chose de terrible. C'est bête, hein. Vous voyez, je ne peux pas écouter la Marseillaise, même maintenant. Même maintenant, j'expliquais aux jeunes l'autre fois, je dis, quand j'entends la Marseillaise, C'est eux qui partent. Et ça ne me fait pas ça qu'à moi, mes six camarades qui restent, vous voyez, sont pareils. Dès qu'on entend le Marseillaise, c'est le départ des gars. Et on les revoit. Vous voyez, quand on est à Châteaubriand, qu'on voit ses portraits, on revoit celui-là mal habillé, le docteur Ténine, qui était toujours avec des vieux fringues, c'est le moment de dire, vieux costume de militaires, on voit un tel avec son petit béret, on voit un tel, vous voyez, on les revoit pas dans la vie comme on nous les a présentés, on les revoit tels qu'ils étaient dans le camp, vous voyez. C'est bête, mon frère. C'est quelque chose qui m'a marqué très très profondément, vous voyez, ça. Alors je suis restée très longtemps, pendant tout le reste qui me restait, à penser à mes camarades, à tous mes camarades, tous. Parce que je les aimais beaucoup, vous voyez. C'était vraiment un sentiment que si, comme des frères, comme si j'en avais, on perd un lien, quelqu'un qui vous est très cher. Yeah. Voilà.
Châteaubriand, le 22 octobre 41. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis, et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre.
Ce cœur qui haïssait la guerre Voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre, révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Robert Desnos.
Ce que je regrette, dit-il dans la lettre, là,
oui,
est de ne pas avoir eu ce que tu m'as promis.
Oui.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Ben, écoutez, voilà, exactement, c'est pas ce qu'on croit, ce qu'on peut croire. Vous voyez, Guy était très amoureux de moi. Moi aussi d'ailleurs, un peu, hein, parce que j'osais pas trop lui dire, mais enfin, c'était quand même un peu...
Il était bel homme ?
Il était très beau, puis moi j'étais pas trop moche. Alors évidemment, on a eu un sentiment peut-être l'un pour l'autre, vous voyez, mais un sentiment qui était tout platonique, vous voyez. C'était simplement des discussions. On parlait même pas d'amour au travers de la barrière, parce qu'il y avait tout le monde, hein, d'amour, vous voyez. Mais Guy, on parlait à ses camarades, vous voyez, autour de lui, tout ça. Bon, alors j'avais appris un peu. Et alors, ce que tu m'as promis. Alors un jour, Guy, vous voyez, c'est tout bête, il me dit, est-ce que tu serais d'accord de me faire un patin ? Et moi, qui ne savais pas du tout ce que ça pouvait être qu'un patin, je lui dis, si tu veux, et c'est ça. Oui.
Ah, c'est ça alors.
C'est ça, l'histoire, uniquement. Alors évidemment, ça me gêne un peu maintenant, vous voyez, de ces choses-là, parce que ça a l'air tout bébête, mais enfin, c'était vraiment un amour très très platonique, voyez-vous.
Un amour de jeunesse, et en plus dans un camp...
C'était mon premier amour, si vous voulez, en quelque sorte, mon premier amour de jeunesse, quoi. Voilà. Au travers une barrière et des barbelés. Voilà, c'est toute l'histoire de Guy Mauquen, mon petit mot. Voilà.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos mort pour la France. Et les mornes matins en étaient différents.
Alors vous allez continuer de fredonner, je suis sûr, vous fredonnez la chanson. Chanson que nous connaissons tous par cœur, une des plus belles chansons françaises probablement, avec ces vrais bijoux de la famille française que sont cette mémoire. Et là, ces lettres des fusillés, La vie à en mourir, un livre absolument magnifique, que vous devez absolument avoir et feuilleter et lire avec les enfants. C'est vraiment une vraie merveille qui nous réconcilie non seulement avec nous-mêmes, mais avec une humanité, cette humanité dont nous avons honte parfois. Merci à Odette Miles, la petite amie de Guy Moquet. Merci à Karim Tudor, Aurélien, Valérie et la Maison des Métallos. Les lectures de ces lettres ont été faites par des anonymes, par des gens qui ne sont pas des comédiens. On a voulu ça avec Thierry Scharf, on a voulu que ce soit comme ceux qui avaient donné leur vie, des gens ordinaires, simples, inconnus et pas forcément des intellos. Denis Péchanski, merci. Reportage Thierry Scharf, technique Olivier Ruyutor et Benjamin de la Gâtinais, l'assistante Joël Levert. Les choix musicaux, c'est Coy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.